et par la main, et puis les emmène du côté des Halles, et sans te faire voir, quand on leur donnera leur noir ou leur crème, ajoute toi-même un sucre d'espoir. Mon vieux boulevard Sébastopol, y a tous tes piafs qui chantent là-haut, et tes mômes qui vont à l'école. À la prochaine, mon Sébasto. À la prochaine, mon Sébasto.
Radio Libertaire 89,4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité de la Fédération anarchiste. Et c'est l'Entonnoir, émission critique de la psychiatrie, avec aujourd'hui le CRPA, le Cercle de réflexion et de proposition d'action pour la psychiatrie.
Sur la psychiatrie. Pas pour la psychiatrie.
Ah oui, non, mais qu'est-ce que j'ai dit ? Oui, oui, sur la psychiatrie, bien sûr. Non, ce serait plutôt contre que pour, en fait. Enfin. Et donc, André Bitton. Bonjour, André.
Bonjour.
Alors, au sommaire de ce programme, pas mal de choses à dire, à savoir des infos qui surviennent d'un peu partout. Et nous aurons principalement un témoignage.
Une alerte.
De Madame B, qui est aussi une affaire au tribunal, puisque... il a fallu légiférer pour améliorer la situation du fils de cette dame, Thomas.
Oui. En fait, il a fallu aller au-delà du seul contrôle de première instance par le juge judiciaire, le contrôle obligatoire avant 12 jours, pour aller en cour d'appel et à deux reprises. Alors, donc, le 2 avril, nous recevions une alerte de cette mère de famille, Madame B, disant la chose suivante. Je vous joins ici une lettre où je dénonce les conditions carcérales subies par mon fils en UMD depuis 2 ans. En l'espèce, c'était à l'UMD de Corrèze, celle des Pays des Gurandes, hein, dans un coin perdu à flanc d'une montagne, à flanc de falaise, dans un lieu isolé de partout. Aucun transport en commun ne mène à cet UMD. Je sais qu'il a besoin de soins et que son cas est complexe, mais je constate que cette privation de liberté et la rareté des visites autorisées, une par mois de 2 heures, n'ont pas amélioré son état, bien au contraire. Cette hospitalisation très longue et punitive ne prend pas en compte ses spécificités. Il a des traits autistiques et un trouble borderline, comorbidité associée à sa pathologie schizoaffective résistante, résistante au traînement, et le résultat est une stagnation, voire une aggravation de son état. Le placement en UMD s'est refermé comme un piège. Il a en effet manifesté des comportements violents depuis qu'il est là-bas, ce qui donne raison à son maintien. Je me bats depuis un an pour le faire au moins transférer à l'UMD de Villejuif pour rapprochement familial, car nous habitons en région parisienne, et ça devrait enfin se faire, mais je n'ai pas de date. Je suis révolté contre ces traitements déshumanisants qui sont la conséquence d'un manque de moyens dans l'hôpital public de secteur. J'ai lancé un cri de dénonciation via les réseaux sociaux. J'ai adressé des courriers recommandés au procureur, au préfet, à l'ARS, Agence Régionale de Santé, à l'UNAFAM. Je veux alerter sur ces structures dont le fonctionnement est opaque et dont le règlement n'est jamais assoupli, quel que soit le profil du patient. Il n'aurait jamais dû se retrouver dans une telle structure. Le bilan est dramatique. Il a perdu en autonomie. Il ne parvient plus à se projeter. Il a même peur de sortir maintenant, tellement il est conditionné depuis 21 mois. Je vous remercie d'avance pour votre compréhension, bien cordialement. Et donc, on décide, avec conjointement, enfin moi je la joins, et je lui dis, écoutez, votre alerte me paraît intéressante, je peux la diffuser plein pot pour voir s'il y a de l'écho. Hein. Tout simplement, s'il y a de l'écho, en vue de faire savoir cette situation. Alors, elle en convient, donc je fais une diffusion plein axe à l'ensemble des contacts, hein, adhérents à l'association, hors association, journalistes, et des journalistes se déclarent d'accord pour suivre cette affaire. Il se trouve qu'au mois de mai, son fils est transféré de l'UMD de Corrèze, donc à 600-500 km du domicile familial, au pavillon 38 de l'UMD Henri Collin de Villejuif, c'est-à-dire le pavillon le plus carcéral de France, hein, pratiquement. C'est un des plus durs de France. Hein. On lui a dit que c'est le plus dur de France. Enfin, maintenant, il y a les nouvelles UMD, hein, celle de comment ça s'appelle, en Moselle, elle est pas mal non plus, celle d'Albi, elle est bien aussi, mais enfin bon. Bon, enfin, toujours est-il que... Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que c'est actuellement un jeune homme de 32 ans qui est très grand, très grand, très grand et costaud, je veux dire. Et là, dans ce cas, alors dès l'âge de 15-16 ans, il a commencé à décompenser, voilà, par inadéquation, hein, voilà, bon, des troubles, etc. Et donc là, c'est le début de l'escalade chimiothérapique qui commence avec en guise de prise en charge. C'est-à-dire que c'est quand même quelqu'un qui, dans les équipes où il est passé, où il a été pris en charge, a été pris au kilo. C'est ces gens très grands, très costauds, qu'on jauge au kilo. Bien, un 95 pouvant devenir obèse. Bon, donc on les dose au kilo, quelque part. Et comme c'est quelqu'un qui n'a pas pu, il a été bloqué, hein, quelque part. Il semble, d'après sa mère, que c'est quelqu'un qui était urbainement intelligent, mais il a été bloqué dans son développement. Et dans ce cas-là, ces gens-là qui sont bloqués, etc., c'est facile qu'il y ait des passages à l'acte désordonnés avec je ne sais quoi sur quelques provoques que ce soit, d'autant plus qu'ils sont bloqués au plan chimiothérapique et qu'ils ne peuvent pas s'épanouir. Ces personnes-là, ils sont bloqués au plan chimiothérapique, bloqués de tous les côtés. L'âge adulte, ils ne peuvent pas y accéder. Le bouleversement hormonal de l'adolescence où l'on découvre la sexualité, ben là, c'est complètement barré. Hein. C'est des gens entravés, complètement entravés de tous les côtés. Donc, sur l'hôpital de secteur où il était, sur prise en charge Erasme, Anthony, sur l'hôpital de proximité, puisqu'il est, il était domicilié chez sa mère, ils ont cessé de le tolérer. Puis avec la raréfaction des lits des équipes, ils se disent bien évidemment, ce patient, il y a une seule structure où il y a suffisamment de personnel, c'est l'UMD. Bon, ah bon, ben maintenant les UMD servent parce que quand même dans les UMD, on préserve un certain nombre de personnel. Et on préserve des lits et des personnels. Donc très bien, on l'envoie à 500 km du domicile familial, ce qui est bien, hein, dans un truc complètement sinistre. La mère, ben, elle voit ça, la mère de famille, elle dit « Mais moi, j'ai plus accès à mon fils, je ne sais pas ce qui se passe. » Donc elle lance cette alerte. Elle obtient quand même qu'il y ait un rapprochement, mais ce n'est pas un rapprochement dans une unité convenable, une unité habituelle, une unité classique où l'on chronicise habituellement les malades. C'est une unité des plus carcérales de France. Donc, elle s'en inquiète. Et donc, à un moment donné, alors ça, c'était au mois de juin, je lui ai dit, écoutez, il y a le contrôle obligatoire juge judiciaire. Bon, alors, elle a été avisée en dehors des délais. de l'audience du juge. Donc je lui ai dit, écoutez, et elle pouvait le prouver. Je lui ai dit, écoutez, c'est un bon moyen pour aller en appel, parce que ça, c'est un moyen pour obtenir l'invalidation de l'ordonnance de maintien du premier juge. Et d'autre part, il y avait une tardiveté dans le renouvellement des arrêtés. Alors, l'avocat qui a été commis d'office s'est aperçu que la tardiveté était là opérationnelle et qu'il lui suffisait de donner à lire le code de la santé publique et de dire à la magistrate d'appel, vous donnez la main levée. Quand bien même le patient est dans un état grave et vous différez de 24 heures. Et moi, j'avais décelé en regardant les pièces, en regardant l'ordonnance du premier juge, que... Parce qu'à la base, lorsqu'il a été transféré à l'UMD des Pays des Gurons dans le Corrèze, il était sous une hospitalisation à la demande d'un tiers qui a été transformée en hospitalisation d'office.
Oui.
Puisque dans les unités pour la difficile, on admet que des gens sur décision du représentant du préfet, du représentant
préfet.
De l'État.
Oui.
Donc en fait, je me suis aperçu que le compute de contrôle judiciaire obligatoire, à partir de la transformation de la SDT en SDRE, n'était même pas valide, puisqu'ils avaient transformé la mesure de soins seulement d'un tiers en soins sur décision du représentant de l'État, sans réaliser que ce changement de régime devait obligatoirement provoquer un contrôle judiciaire pour valider ce contrôle. De par un avis de la Cour de cassation d'avril 2015 et autres, mais également d'autres jurisprudences. Et que donc, la mesure de HO pendant 2 ans à l'UMD des Gurandes était irrégulière de part en part. Je lui ai dit, écoutez, c'est un argument à soulever ultérieurement. En tout cas, sachez que sur une durée de 2 ans, si jamais ça se passe mal, vous pourrez faire aisément un contentieux indemnitaire contre l'État. Donc, le 10 juin, devant la Cour d'appel de Paris, la magistrate était très, très attentive, elle a pu quand même s'exprimer, elle a pu voir une juge, elle a pu faire valoir ses arguments. Les parties adverses, la partie adverse n'était ni présente ni représentée, comme d'habitude, puisque en réalité ils sont défendus par les magistrats, mais bon. Là, en l'espèce, ce n'était pas le cas, si bien que par ordonnance du premier président délégué de la Cour d'appel de Paris, la magistrate a donné main levée de la mesure de soins seulement de soins sur décision du représentant de l'État, avec un différé de 24 heures pour que l'administration puisse prendre telle disposition qui améliore la situation. Là-dessus, le jour même, elle est convoquée devant le psychiatre de l'UMD, le médecin-chef de l'UMD Collin, qui lui dit, écoutez, c'est scandaleux, vous ne collaborez pas avec nous, moi, c'est pas compliqué, je vais prendre la décision de sortir votre fils, on l'externe. Votre fils, vous le prenez sous votre bras et vous vous débrouillez avec. Alors, dit, mais enfin non. Alors, il lui dit, si ça vous plaît pas, je fais donner une deuxième SDRE, on convoque un médecin extérieur pour certifier une deuxième décision du représentant de l'État pour qu'on reparte à zéro. Donc, ils ont fait repartir une deuxième hospitalisation d'office, si tu veux.
Oui.
Et là, dans un premier temps, mais ils lui ont accordé un droit de visite, une fois par semaine. Donc, dans un premier temps, elle était catastrophée, elle a joint les journalistes, coq chaud d'orge de Mediapart se retourne contre membre de rendre des comptes, vous l'avez mis dans une mauvaise posture, mais le jour même, notre adhérente, Madame B, se rend compte qu'il y a une amélioration, puisqu'elle a le droit de visite. Elle a le droit de visite, et qu'en fait, comme ils ont donné une deuxième SDRE, la situation étant changée, avec cette amélioration, qu'elle a un droit de visite. Donc, bon, moi je m'empaille avec la journaliste de Mediapart, qui n'avait rien compris, parce qu'elle est du côté des professionnels, et puis bon, voilà. D'autres journalistes continuent de s'intéresser à cette affaire, notamment Elsa Vigoureux du Nouvel Obs et Anne Pitch de Street Press, qui ont fait des articles très, très, très convenables. Et au vu du fait que non, moi je commence à engueuler la journaliste de Mediapart, et je saisis la direction de Mediapart en disant, écoute, c'est pas normal, quoi. Il est normal de mener une lutte et de se servir de l'accès au droit devenu obligatoire, parce que ce n'était pas une saisine facultative, c'était sur une saisine obligatoire du juge. La, Madame B n'a pas fait une saisine facultative de l'autorité judiciaire, elle s'est servie de la voie de recours sur un contrôle obligatoire avant 12 jours. Bien. Et à partir de là, elle obtient une amélioration. Et mieux même, cette amélioration se confirme dans les jours qui suivent, à savoir qu'elle obtient un droit de visite une fois par semaine et d'accès au téléphone à son fils tous les jours. Mais pour une journaliste du relent, des relents corporatistes syndicalaux de gauche, il ne faut pas toucher à cette sécurité quand même. Bon, les hospitaliers, c'est les professionnels, et puis on ne fait pas de la procédure comme ça, etc., etc. Et surtout, ça met en danger les familles, comme c'est le cas de ce journaliste, parce qu'il se trouve que ce journaliste est un parent qui est psychiatrisé, mais enfin bon, c'est surtout que... on veut bien gémir sur le sort réservé aux malades, mais on ne veut pas que les plaintes soient efficaces.
Oui.
C'est surtout ça.
Ah oui, oui.
C'est surtout ça. Et là, on voit que, on comprend bien que le camp dont je proviens, le groupe Information Asile, très procédure, a été combattu par ces gens-là pendant 30 ans. Qu'on a été dans un isoloir complet pendant 30 ans. Parce que c'est ce qui s'est passé. On les a eus contre nous, les hospitaliers, les copains, les copines, les carrières, les syndicats, les partis. Hein, voilà ce que disait Philippe Bernardet très justement. Bon, bref. Donc, là-dessus, la deuxième mesure de soins sur décision du représentant de l'État repart. Oui. Il y a un nouveau contrôle obligatoire. Le juge de Créteil maintient la mesure. Et je lui dis, écoutez, profitez-en, essayez d'aller en appel. Alors, elle prend une avocate très, très pertinente du barreau de Versailles, qui était rentrée dans la danse en 2017, et qui était une lauréate, Maître Pietro Chabassier, une secrétaire de la conférence, c'est-à-dire une lauréate du barreau de Versailles. Mais enfin, bon, les conclusions écrites qu'a déposées cette avocate étaient très bien. Mais la magistrate, au vu de cette situation, dit, je maintiens. Mais Madame B a obtenu une amélioration du traitement de son fils, oui. Et le fait qu'elle puisse accéder surtout à son fils. Alors, les dernières nouvelles de cela sont mitigées. Comme il se trouve que son fils, qui est quand même déficitaire, si tu veux, qu'il est difficile avec un...
Oui, il est passé par toute une série de diagnostics différents. D'abord TDAH, puis bipolaire, puis plus tard schizophrénie affective.
Une escalade de traitement.
oui, qui va avec. Oui.
Une escalade de traitement, ça. Parce qu'il a été... On lui a même administré pendant pas mal de temps du Leponex, traitement dernier recours, par rapport auquel il est chimio-résistant.
Oui.
Et pour cause, est-ce que l'on traite, parce qu'on s'est contenté de le traiter, ce jeune homme.
C'est ça.
C'est qu'on le traitait. Il a été médiqué et pas pris en charge au visa de la carence en personnel, etc.
Et donc l'expert psychiatre au tribunal lors de la cour d'appel, dit que monsieur présente un état d'instabilité clinique avec fluctuation de son humeur et une irritabilité majeure. Son discours est diffluent, marqué par un relâchement des associations et marqué par des raisonnements paralogiques, sans hallucination. Voilà, donc...
Oui, mais ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ?
Voilà, c'est la question qu'on pose.
Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un état des lieux clinicisant la personne qui n'a même plus son humanité. Pourquoi ? Parce qu'on ne va pas... Est-ce qu'il a été voir l'étiologie ? L'étiologie, c'est que on part d'un adolescent qui n'y arrive pas, qui est à côté de la plaque, et l'on met en place une escalade de la déshumanisation. Mmh. Et là, la personne, elle est fichue. Tout simplement fichue. Ouais. Et la personne... j'ai dit à Madame B, écoutez, moi, si j'avais été clinicisé adolescent, comme c'était le cas... il en était question dans la presse 68, j'aurais été comme lui, ou pire, parce que moi, je n'étais pas du tout d'un format, etc., il m'aurait déshumanisé à bloc. Oui, parce que moi, il était question qu'on me clinicise dès mes 17-18 ans. Hein. J'étais un normal de service dès 70-71, et même plus tôt. Bon, donc je lui ai dit, on le sait, ces institutions fabriquent les déficients qu'ils entendent fabriquer. Hein. Et d'autre part, pour quelqu'un qui n'a jamais pu s'épanouir et qui ne connaît pas, qui n'a pas eu accès aux règles de sociabilité, dans un contexte hyper carcéral comme le pavillon 38 de l'UMD Colin, qui est très carcéral, on va avoir un geste brusque envers lui, il va répondre sur un geste brusque, il n'a pas l'intellect. Oui. Il n'a pas l'intellect pour ça, il n'a pas le développement. Donc il va y avoir une escalade, etc., etc. Alors pour chance, là il a été mis sur une escalade quelconque des infirmiers garde-chourme. Il a été mis en isolement, mais le maintien en isolement n'a quand même pas été maintenu au-delà du délai du contrôle obligatoire, donc ça va encore. Mais dans cette affaire, madame, la mère de famille sort de là complètement éreintée, en finissant par comprendre ce qui se passait là-dedans et en ayant la fin des illusions qu'elle pouvait avoir sur le milieu psychiatrique. Parce que c'est une fin d'illusion. Ce genre de patient a-t-il à voir dans un pavillon d'une unité pour malades difficiles où l'on envoie les plus dangereux du pays? Et là-dessus, quand on obtient quelque chose, on a une protestation syndicalo-corporatiste du journaliste de gauche, d'un organe de presse de gauche tellement saillant, intersectionnel, tellement à la mode. Eh bien, moi, je trouve que cette affaire a été un révélateur puissant de la mise en impasse du monde psychiatrique et du fait que tant des professionnels, des usagers que des familles, ce qui a été constaté depuis 2019, tout le monde n'a plus qu'une chose à faire, se mettre à hurler. C'est ce que la rédaction Mediapart avait consacré en 2019. Il n'y a plus que ça à faire. Se mettre à dire, ça dépasse les bornes. Est-ce que un patient... Attends, je reprends ce raisonnement. Un patient qui développe une atteinte psy quelconque, mais qui ne fait pas de lui un criminel, un dangereux ou quoi, c'est un simple malade. Au prorata du fait qu'il est très grand, costaud, plus ou moins obèse, on fait une escalade de traitement telle qu'il n'y a plus qu'à le foutre en l'air progressivement. Bon, voyons. Là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir, hein, aussi. Donc alors, je voudrais à cet effet donner lecture de l'article que Street Press avait consacré à cette affaire, puisque je l'avais trouvé très parlant.
I'm gonna lay down my sword and shield
down by the riverside.
I'm gonna lay down my sword and shield
down by the riverside.
I'm gonna
study one no more. One no more.
I ain't gonna study one no more. I'm gonna study one no more. I'm gonna lay down my heavy load
down by the riverside.
Oh.
Down by the riverside.
Yes.
Down by the riverside.
I'm gonna lay down my heavy load
down by the riverside.
I'm gonna study
down by the riverside, gonna start.
Radio Libertaire 89.4, c'était Louis Armstrong et sa Bible, Down by the Riverside.
Alors, au plan strictement juridique, cette affaire présente quel intérêt ? Puisque quand on lit l'ordonnance de Malvais avec effet différé du 10 juin, qui a été, qu'on trouve sur Judy Libre, elle est anonymisée dans l'Open Data des missions de justice, on voit que s'agissant d'un placement d'office en unité pour malade difficile, la Malvais est accordée avec un effet différé de 24 heures, le temps pour l'administration de prendre telle disposition, hein, de programme de soins ou de renouvellement de mesures. Et on s'aperçoit que la formidable jurisprudence qu'avait obtenue Maître Hélène Leca en 2023, en juillet 2023, du tribunal des conflits sur Romain Dupuis, sur l'affaire de M. Dupuis, sur le fait que le tribunal des conflits considère que toute demande contentieuse, quoi, si tu veux, sur l'admission, le maintien, le transfert ou la sortie d'unité pour maladie difficile était de la compétence du judiciaire. Que donc, on est en droit de saisir depuis, c'est ce qu'avait obtenu Maître Hélène Leca en septembre 2023 de la Cour d'appel de Toulouse, on est en droit de saisir le magistrat judiciaire et de lui dire ce qui était en fond là dans cette affaire, l'affaire de Thomas, mais qui n'a pas été utilisée stricto sensu, et de lui dire, c'est pas la levée qui nous intéresse, ce qui nous intéresse c'est un changement d'unité. Donc on vous demande, argument en main, d'ordonner la main levée de la mesure en ce qu'elle s'exerce en unité pour maladie difficile, et de dire que c'est juste en ce qu'elle s'exerce, l'hospitalisation d'office s'exerce en unité pour maladie difficile, l'administration devant prendre conjointement à l'hôpital un transfert dans une unité plus classique. Et là, on voit que pour quelqu'un comme Thomas, même cela n'est plus faisable au prorata du manque de lits. Alors, donc, on en arrive avec la... Et c'est là où je viens sur un point politique. On en arrive avec la désinstitutionnalisation qui a été demandée par nous autres, hein, aussi, la désasilarisation. On a protesté contre l'asile, hein, après tout. Hein, on n'était pas seuls. On en arrive à ce que maintenant, des innocents comme Thomas, qui sont de simples malades, déficients, etc., passent dans des unités hautement carcérales. Faute de lits. Bon, enfin, on se fout du monde, hein. Alors, on voit que, néanmoins, la percée jurisprudentielle obtenue par Maître Hélène Leca avec la compétence judiciaire sur ce qui se passe en UMD et le fait qu'on puisse saisir le juge libérateur en lui disant « Nous ne voulons pas la main levée tout court de la mesure d'hospitalisation d'office. Nous voulons que vous donniez main levée en ce qu'elle s'exerce dans telle unité pour maladie difficile et que la personne soit extraite de là et changée de service. » Bon, ce qui est vrai, c'est parce qu'avant, on n'avait pas cette capacité, puisque les unités pour maladies difficiles, auparavant, étaient de simples services internes à un hôpital psychiatrique. Donc, en fait, c'était un simple transfert à l'intérieur du monde psychiatrique. Donc, d'une part. D'autre part, cette affaire a quand même mobilisé des journalistes. Et deux journalistes ont consacré un article intéressant en résumant cette affaire, Elsa Vigoureux du Nouvel Obs et Anne Pitch de Street Press. Street Press, donc c'était pour le 7 juillet. Alors cet article de Street Press, c'est le suivant. Sa mère réclame des conditions dignes. C'est pas la sortie, des conditions dignes. Depuis 2 ans, Thomas est hospitalisé dans une unité psychiatrique hautement sécurisée. Sa mère dénonce ses conditions d'enfermement et les conséquences sur sa santé mentale. L'histoire interroge sur l'opacité de l'institution psychiatrique. L'hôpital psychiatrique de Villejuif, 19 juin, l'audience de la juge des libertés de la détention va bientôt commencer. Elle est en principe publique, mais curieusement, la juge décide de la tenir à huis clos en raison de l'atteinte à l'intimité de la vie privée du patient. Street Press est mise à la porte. Les journalistes n'ont pas accès, hein, quand il y a un huis clos. La présence de journalistes inhabituels semble déranger. C'est la première fois qu'on voit quelqu'un venir ici, s'exclame avec humour, les aides-soignants déconcertés par notre présence. Les aides-soignants étaient dans la salle, alors qu'il y avait un huis clos.
Ah oui.
Voir le film du jour. S'il y a un huis clos, il n'y a rien d'autre que la juge, le greffier, le patient, point. La sécurité est à la porte, elle peut alerter par un bouton, c'est pas...
C'est la parole du patient qui est contrôlée.
Tout à fait.
Par le personnel.
Tout à fait. Oui. Alors la mère, étant curatrice, a été autorisée. Donc, alors l'audience doit débattre du maintien en unité pour maladie difficile de Thomas, qui est hospitalisé depuis plus de 2 ans. Sa mère, Isabelle, se bat pour obtenir le transfert de son fils trentenaire dans un secteur fermé classique, en lieu et place de l'UMD, des unités hautement sécurisées, presque carcérales. Comme d'autres, Thomas y est coupé du monde extérieur, privé de toutes ses affaires personnelles. Une grande partie des personnes qui sont enfermées ont été condamnées ou déclarées pénalement irresponsables après avoir commis une infraction pénale. C'est pas le cas de Thomas. Malgré les recours judiciaires de sa mère pour le faire transférer en secteur classique, l'institution psychiatrique s'y oppose. Ce 19 juin, la décision de justice est rendue en quelques minutes. Le maintien en UMD est ordonné. Au moins, Isabelle a pu plaider pour que son fils ait le droit d'écouter sa musique sur son MP3. Car c'est la revendication première d'Isabelle, le droit à des conditions dignes. Elle arrive à faire que son fils garde une vie psychique lorsqu'elle l'a au téléphone en lui faisant écouter de la musique. On voit que l'état de Thomas empire et pourtant on continue. C'est pas du soin, c'est une punition. Qu'est-ce qui peut justifier la privation de musique? C'est la seule chose qui le fait tenir. Et d'autre part, son seul rapport au monde, c'est sa mère. Je ne comprends pas pourquoi on l'a placé ici. Thomas a été hospitalisé sous contrat il y a 2 ans, enfin en hospitalisation d'office, après s'être présenté lui-même aux urgences psychiatriques pour idées suicidaires. Il s'est présenté à Erasme, puis après s'était transformé. C'était pas sa première hospitalisation. Thomas souffre de troubles autistiques depuis son enfance et d'autres troubles psychiques depuis son adolescence. Successivement déclaré TDAH, HPI, bipolaire, souffrant de troubles schizoaffectifs, un parcours que sa mère qualifie de polytraumatique du fait du harcèlement et agression qu'il a subi enfant, souvent lié à ses différences. On peut supposer que c'est dans le système scolaire. On peut supposer. Les dernières années avant son hospitalisation, les traitements l'avaient stabilisé. Il était en mesure de vivre seul dans un appartement à proximité de sa mère, où il pratiquait en milieu ordinaire ses passions comme la danse, le théâtre, la musique et le sport. Mais à l'été 2022, à la suite d'un changement de traitement, une nouvelle crise hallucinatoire survient et des idées suicidaires le traversent. Au mois de mars 2023, il demande d'aller aux urgences. Il est hospitalisé 2 mois dans son secteur habituel à Erasme, avant d'être transféré en UMD en Corrèze pour cause d'impasse thérapeutique et de risque suicidaire. « Je ne comprends pas pourquoi on l'a placé là », s'est exclamée Isabelle lors d'une précédente audience face au JLD. Cette dernière explique qu'il aurait été écrit « hospitalisation sous contrainte » sur son dossier. Bon, ça, c'est un peu léger. Il y a d'excellents dessins de Anne Pitch dans cet article, qui est bonne dessinatrice. La mère de Thomas a souligné durant une des audiences que personne ne pourrait supporter ces conditions dans une unité psychiatrique. De la torture blanche. Oui. Alors, ce qu'elle défend, c'est qu'il est exercé sur son fils une forme de torture. Alors que Thomas vit en région parisienne, il est transféré à Aigurande en Corrèze, faute de place disponible. On lui refuse l'accès à ses affaires personnelles, ses livres, son téléphone. Il n'a droit qu'à 2 heures de visite par mois, retrace Isabelle, qui a dû à plusieurs reprises parcourir 1000 kilomètres pour voir son fils pendant ces 2 petites heures. Thomas a peu de moyens d'apaisement. Ces 2 heures d'écoute de musique par jour sur son MP3 et un accès à la salle de sport durant 2 heures par semaine, c'est une situation d'isolement social qui peut détériorer son état. C'est de la torture blanche, estime-t-elle. Un soignant m'a dit un jour, l'enfermement est un soin et comme tous les soins, ils ont des effets secondaires. En mai 2025, Isabelle réussit à refaire transférer son fils à l'UMD de Villejuif, à quelques kilomètres de chez elle, mais les conditions s'avèrent pires. Thomas est privé du MP3 et du sport, les visites sont beaucoup plus strictes, il leur est désormais interdit de s'asseoir côte à côte et de chanter. Parce qu'en plus, son droit de visite s'exerçait, comme il est de coutume au pavillon 38, de façon extrêmement stricte. Dans la cantine, vous n'avez pas le droit de vous toucher, vous ne donnez pas n'importe quoi, vous n'avez pas autorisation pour pas qu'il y ait de violence et autres. Hein. Face à l'opacité de l'institution psychiatrique au pouvoir des médecins et au contrôle limité de l'institution judiciaire, Isabelle raconte se retrouver démunie. Les psychiatres s'acharneraient à maintenir que l'UMD est la seule solution. Ça pose problème. Aucun progrès ne semble pourtant avoir pu être observé en 2 ans. Pire, selon Isabelle, depuis son hospitalisation en UMD, apparaissent pour la première fois des gestes hétéro-agressifs. Ça, ça rappelle une autre affaire qu'on avait traitée, l'affaire Baudouin en 2019, et le fils de M. Baudouin avait fini par se suicider. Il s'était suicidé en UMD. Pour justifier son maintien en UMD, on me répond toujours qu'il est intolérant à la frustration. Mais qui pourrait tolérer de telles conditions ? Ah oui. Une UMD au problème connu. Jusqu'ici, Isabelle ne s'était jamais opposée à une décision médicale ou à l'hospitalisation de son fils, dont elle reconnaît la nécessité de prise en charge, mais elle ne comprend pas ce placement en UMD, notamment au pavillon 38, un lieu où Mediapart relevait déjà en 2009 les conditions indignes, les privations et des cas de violence commises par des soignants. 2009, c'était l'enquête menée par Corinne Fouteau, qui avait superbement ignoré les progrès de la jurisprudence, puisqu'en parallèle, on avait fait la main levée dans l'affaire YM avec Antoine Dubuisson, hein. Mais Corinne Fouteau, elle est devenue présidente de Mediapart. Et en effet, son enquête sur l'UMD Colin de 2009, en effet, c'était corsé. Donc Thomas, Corinne Fouteau a remplacé Edwy Plenel. Thomas n'a jamais fait l'objet de poursuites pénales ni de condamnations et n'avait jusqu'à peu jamais montré de signes de violence. Alors, il faut savoir qu'à la fin de son séjour en UMD en Corrèze, il demandait à être euthanasié. Vous voyez ? Donc, alors, on mène des patients au désespoir le plus complet qui, après, demandent à être euthanasié. Et après, on voit ces de gauche tout uniment demander la légalisation de l'euthanasie et qu'on y admette les malades mentaux. Tu vois, avec des garde-fous. Alors, donc, on est en train, la mère de famille, on est en train de lui créer un casier psychiatrique alors qu'il n'a jamais été dangereux. Le fameux OPSIWEM, hein, croisé terrorisme. En 2021, un rapport de la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté a relevé de nettes améliorations, mais s'inquiète que certaines pratiques attentatoires à la dignité demeurent. Contactée par Street Press, l'adjointe à la directrice des affaires juridiques explique que depuis ce dernier rapport de 2021 sur Colin, aucun contrôle du CGLPN n'a pu être réalisé sur place, faute de moyens matériels pour le renouvellement des contrôles. L'insuffisance de crédit du CGLPL. Un des problèmes de ce type d'unité, c'est que les critères d'affectation tels qu'ils sont définis par le décret, laissent énormément de marge d'appréciation aux établissements, indique-t-elle. C'est un décret qui régit les UMD, décret 2016. Donc il est fréquent que des témoignages fassent état d'affectation ou de maintien dans ce type d'unité qui sont jugés abusifs ou injustifiés par la personne qui nous signale la situation, mais qui, du point de vue de l'hôpital, rentre dans les critères. Parce que le critère principal, c'est la non-tenabilité, le fait qu'on ne puisse pas contrôler un patient dans une unité classique. Or, les conditions d'admission et de maintien dans les unités classiques étant ce qu'elles sont, c'est-à-dire notamment les unités où le protocole d'admission, c'est l'isolement contention.
Oui.
Bon. Alors, attends voir. Excusez-moi du peu.
Oui. Si Thomas reste enfermé en UMD, c'est qu'il n'existe aucune structure qui puisse...
Alors, ce n'est pas mon idée.
Non ?
Ce n'est pas mon idée. Je pense que rien n'est simple et que, par exemple, des hôpitaux, moi je le sais par Père Vaucluse, des hôpitaux comme Paul Guiraud Villejuif ont des lits de réserve. Bien. Simplement, c'est des lits de réserve en cas d'afflux. C'est par rapport à la contrainte. C'est que les hôpitaux sont de plus en plus réservés pour l'admission sous contrainte. Et donc pour la crise. Et pour le reste, on renvoie au secteur privé. Et il est vrai, pour les patients dépendants, qu'on les renvoie dans leur famille.
Voilà.
Bon. Et que les familles désespérées... Alors, moi, ce qu'on avait déduit, au contraire de la journaliste de Mediapart, c'est qu'à ce moment-là, les familles devaient commencer à s'organiser et devaient commencer à manier le contentieux. Devaient. Parce que qu'est-ce qui reste ? Qu'est-ce qui leur reste ? Tu vois ?
Oui.
À tout le moins, le problème, c'est que l'UNAFAM, à laquelle est reliée cette adhérente, l'UNAFAM qui co-gère le système, ils vont pas bouger comme ça. Ils ont déjà, la direction nationale de l'UNAFAM a déjà beaucoup bougé sur l'isolement contention, puisqu'ils sont abolitionnistes sur la contention des patients, mais tout de même, ils co-gèrent le système. L'UNAFAM co-gère le système. Bon. Alors, donc... Alors, le rapport du CGLPL a été transmis au ministère de la Santé, qui n'a pas formulé d'observation particulière en 2024 sur la situation de l'UMD de Villejuif. Je recommande cet article parce qu'il y a des dessins vraiment très bien de la dessinatrice. Hein, qui sont très... On le maintient dans un système qui lui est nuisible, on aggrave son état. Des coups de pression. Depuis juin, Isabelle a cru gagner quand la cour d'appel a statué sur la mesure d'hospitalisation de Thomas pour cause d'irrégularité dans la procédure de transfert au pavillon 38. L'hôpital s'est opposé à la libération de Thomas en renouvelant une procédure d'hospitalisation sous contrainte. Thomas n'a même pas été changé de secteur ni de pavillon. À la suite de chaque recours en justice, Isabelle aurait fait l'objet d'appels vocaux de la part de psychiatres qui lui auraient reproché sa démarche et lui auraient lancé, estimant qu'elle mettait en danger son fils. Bien. Qu'il le mettrait dehors si ça continuait, puis finalement, pour avoir la compliance de la mère. Le 1er juillet, lors d'un rendez-vous prévu avec le chef de poule, elle s'est retrouvée confrontée seule à 5 soignants dans un bureau fermé. Il y a des parents qu'on menace de faire interner. Ils lui ont reproché ses démarches judiciaires, son témoignage dans le Nouvel Obs, son manque de confiance dans l'équipe, retrace Isabelle, qui, selon eux, nuirait aux soins, une situation particulièrement intimidante et déséquilibrée pour Isabelle. Je vais recommander de n'aller à ce genre de rendez-vous qu'avec un témoin. Alors, ma seule intention était pourtant de dialoguer sur la prise en charge de mon fils et de réfléchir à des alternatives en cas de sortie de l'UMD. Aucun dialogue n'a été possible. J'avais l'impression d'avoir 5 ans et d'être en conseil de discipline à l'école. Celle-ci a de nouveau fait appel. Donc Thomas a été jugé non auditionnable. Le 3 juillet 2025, la cour d'appel a confirmé l'ordonnance de la JLD. Les troubles psychiques décrits nécessitent le maintien de l'hospitalisation complète au sein de l'UMD. L'inquiétude d'Isabelle pour l'avenir de son fils perdure. Ces maladies, elles isolent déjà de la société, de la réalité, mais quand en plus on l'enferme, qu'est-ce qu'on fait avec un homme de 32 ans maintenant? On lui fait perdre tout espoir. C'est quoi son avenir là-dedans? Dans quel état il va sortir après ces années d'enfermement? La mère a tout de même pu avoir une amélioration dans ses relations avec les soignants depuis la dernière décision judiciaire. L'UMD a accepté depuis plusieurs jours de prêter un MP3 à Thomas avec une liste préétablie de 90 chansons. On m'a même autorisé à lui laisser un manga. Isabelle espère de cette première petite victoire un assouplissement des conditions d'hospitalisation de Thomas et une amélioration de son état de santé. Voilà, on en est là dans la psychiatrie française. On en est là. Et c'est là, alors je me permets de caser une autre position, c'est là puisque j'ai subi une agression caractérisée de la part d'un groupe de personnes se réclamant de la valorisation de la folie. On ne peut pas, dans des conditions pareilles de prise en charge, avec une crise pareille, dans une société comme la nôtre qui se durcit, on ne peut pas quand même décemment continuer à valoriser comme une tendance, comme un courant, comment dire, libertaire, émancipant, etc., la folie, le délire le plus complet, les stupéfiants, pour aboutir à quoi ? Qu'on ose quand même dire à des gens qui vont mal à un moment donné, cherchez la bonne santé, cherchez à vous en sortir, cherchez à être de nouveau combatif dans la vie. Parce que franchement, au bout d'un certain temps, nous, on a toujours subi ce genre d'attaque, puisqu'on a toujours dit, oui, vos procédures, c'est de la paranoïa, etc. En réalité, vous êtes des malades profonds et des malades dangereux, et c'est votre maladie qui vous fait faire des procès. Bon, et on a osé me dire, moi, bon, qui ai quand même mené toute cette lutte, voilà, un peu isolée, mais enfin quand même qui a percé, que tout ça, c'était du flanc, que j'étais un malade comme les autres, et qu'on devait me foutre en l'air. Moi, je suis désolé... ça trouve ses limites. Hein.
On est toujours sur Radio Libertaire avec le CRPA dans l'entonnoir, émission critique de la psychiatrie, et on va continuer avec Louis Armstrong, Rock My Soul.
Children from the land of Israel, Shadrach, Meshach, Abednego, took a trip to the land of Babylon, Shadrach, Meshach, Abednego, Nebuchadnezzar was the king of Babylon, Shadrach.
Voilà, je me suis trompé de face du vinyle, évidemment. Alors, je retourne donc le disque et vous donne la bonne chanson. Voilà. Bon. Oui, alors donc, bon, bah on va passer la pause hein, et on va continuer avec André Bitton du CRPA, le Cercle de réflexion et de proposition d'action sur la psychiatrie. Radio Libertaire 89,4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité de la Fédération anarchiste. C'est toujours l'Entonnoir, émission critique de la psychiatrie avec André Bitton du CRPA.
Alors, par une dépêche de l'agence de presse spécialisée Hospimedia du 18 juillet 2025, alors on apprenait qu'il est désormais question de déployer plus largement les directives anticipées en psychiatrie et que cela soulève plusieurs défis. Alors, les directives anticipées en psychiatrie, c'est l'acronyme DAP. Directives anticipées. Les directives anticipées viennent des lois Claeys et Leonetti sur la fin de vie. Et il a été vu qu'il y avait possibilité d'acclimater ce dispositif pour des personnes connaissant le circuit psychiatrique à répétition et pouvant en quelque sorte anticiper ce qu'elles souhaitaient ou ne souhaitaient pas dans une future prise en charge au cas où elles ne soient pas en état de consentir. Et donc, ça a repris, enfin, les gens qui ont vulgarisé un peu ce thème ont repris l'ancien schéma du testament psychiatrique, notamment des Suisses. Et donc, une étude a été menée avec une équipe, plusieurs équipes de médiateurs de santé pairs, notamment sur Marseille et sur Lyon, de rédaction assistée par des patients, assistée par les médiateurs de santé pairs de directives anticipées, et que ces directives anticipées soient incluses dans le dossier patient informatique dans les services de psychiatrie, si bien que les équipes de psychiatrie pouvaient accéder, en cas de réadmission de la personne, à travers le dossier patient informatisé, au contenu de ces directives anticipées. Il a été noté, notamment dans une équipe publiée dans une revue prestigieuse par la docteure Aurélie Tinland, médecin-chercheur de la PHM, Assistance publique Hôpitaux de Marseille, que le taux de réhospitalisation était moindre pour des personnes ayant rédigé des directives anticipées en étant assistées par un médiateur de santé pair ou pair aidant professionnel que pour des patients lambda n'ayant pas rédigé de directives anticipées. Alors bon, on peut dire quand même que cette enquête est un peu biaisée en ce sens que les patients qui accèdent à une assistance pour rédiger des directives anticipées sont déjà dans un circuit qui les sécurise hein, quelque part. Mais bon, c'est tout de même intéressant à prendre. Donc alors, cette dépêche, les défis et enjeux induits par l'objectif d'un déploiement accru au niveau national des directives anticipées en psychiatrie ont été abordés lors d'un webinaire réunissant usagers, familles et professionnels de santé. Plusieurs nouveaux travaux sont en cours. Alors que les directives anticipées en psychiatrie sont des dispositifs de droit et de soins encore mal connus, dire que ce sont des dispositifs de droit, on s'aventure. C'est pas encore un dispositif juridiquement assis. Hein. Ce n'est qu'une innovation. L'Agence nationale de la performance sanitaire et médico-sociale, ANAP, qui avait remplacé la fameuse mission d'appui en santé mentale, fondée et dirigée par notre très célèbre docteur Gérard Massé, mon meilleur ennemi, a réuni des usagers, familles et professionnels pour échanger sur les enjeux liés à leur mise en œuvre accrue lors d'une conférence le 10 juillet organisée par le collectif national DAP, Directive Anticipée. Les participants ont notamment abordé les défis à relever pour permettre ce large déploiement après avoir rappelé les bénéfices avérés, illustrés notamment par une étude interhospitalière en 2022. Cette dernière a révélé en effet que remplir de telles directives en présence de médiateurs, pairs, réduit de plus de 30% les hospitalisations sans consentement. Savoir expérientiel et pédagogie. Comment mieux faire appliquer ces directives? La diffusion inégale de l'outil au niveau national induit des difficultés dans sa mise en application au sein des pratiques courantes, a révélé Elsa Casto, médiatrice santé pair à l'assistance publique Hôpitaux de Marseille. Il faut réussir à mobiliser les professionnels à l'application des bonnes pratiques inscrites dans des attitudes et postures valorisant le rétablissement des personnes, a-t-elle souligné, ce qui implique de considérer les forces des patients, leur capacité de réflexion, leur droit à établir leur volonté à l'avance et à faire des choix pour leur santé. Oui, ça suppose de considérer les patients comme des sujets à part entière, pouvant avoir un libre arbitre, une volonté, une autonomie. Des recommandations HAS à venir. Et là, on y vient. La Haute Autorité de Santé prépare des recommandations pour contribuer à diffuser le plus largement possible, à intégrer aux pratiques ces mesures d'anticipation. Ça va être sous le nom anticipation en psychiatrie. Hein. Ça va, ils ne vont pas garder directement anticipé. Dont la mise en œuvre est encore trop limitée expérimentale, malgré un intérêt démontré. Elle publie ce 18 juillet 2025 une note de cadrage. Un appel à candidature aura lieu en septembre 2025 pour installer un groupe de travail. Par ailleurs, un guide du collectif DAP, Directive anticipée en psychiatrie, a été publié au premier trimestre. Enfin, un nouveau webinaire de l'ANAP est annoncé à l'automne sur les modalités de déploiement des directives à travers des retours d'expérience ciblés. Autre enjeu, la reconnaissance du savoir expérientiel et celui du travailleur pair dans l'accompagnement à la rédaction des directives, dans la connaissance de soi, la déstigmatisation, les ressources mobilisables. L'accessibilité des directives doit être renforcée au niveau national avec une systématisation de leurs consultations, parce qu'encore faut-il qu'elles soient consultées, et une plus grande promotion et information auprès des professionnels que des personnes concernées. Pour Marie-Jeanne Richard, ancienne présidente de l'UNAFAM, ces outils demandent à l'entourage d'être en capacité d'accompagner la prise de risque. Cette situation vraiment très exigeante nécessite une alliance avec l'usager des soignants. Et là, on en vient à la question juridique. Défi juridique et organisationnel. Ces directives permettent de respecter les décisions du patient, mais elles doivent rester protectrices, c'est-à-dire qu'en dernier recours, chaque intervenant doit prendre sa responsabilité. A relevé Marie-Jeanne Richard, avec si nécessaire, in fine, des soins à donner. Autrement dit, c'est pas parce que tel patient dans ses directives anticipées a interdit telle modalité que l'équipe va être obligée de faire droit, de donner droit à cette indication. Cela reste une indication, bon, performante peut-être, mais ce n'est qu'une indication. Bon. Donc c'est à partir de là que le cadre juridique, ça doit se préciser. S'il doit y avoir un cadre, il va falloir préciser cela. Il faut arriver à expliquer à l'entourage ce qu'est la personne de confiance dans le cadre des directives et la différence avec la personne à prévenir. En effet, puisqu'on ne va pas attendre le déploiement sur le territoire national des médiateurs de santé, père aidant, etc., la personne de confiance désignée par la personne peut très bien être la porteuse ou le porteur, la porteuse, du contenu des directives anticipées. Mmh. Donc ces mesures ouvrent de nouvelles voies de soins et méritent réellement un nouveau cadre juridique pour leur application et également pour leur non-respect. Des défis organisationnels se présentent aussi, a souligné Yvonne Kenem, infirmière en psychiatrie au CHU de Saint-Étienne. Les soignants rapportent la difficulté de retrouver rapidement les directives dans le dossier patient, par exemple aux urgences. Il y a aussi, bien sûr, toutes les résistances des professionnels, alors que ces outils transforment la relation soignant-soigné. Il faut arriver à faciliter l'horizontalisation des rapports, déjà entre professionnels, psychiatres, infirmiers, et puis entre professionnels et patients, a-t-elle développé. Enfin, il y a le défi du temps. On demande beaucoup aux soignants actuellement, ils peuvent y voir une surcharge de travail, un travail administratif de plus, a poursuivi Yvonne Kenem. Or, il est très important que les soignants comprennent que ces dispositifs sont un support de rencontre, de dialogue, de lien en faveur des droits des personnes, un outil de soins et surtout très valorisant pour les soignants dans leur pratique. En formation, certains viennent avec des réticences et repartent en disant que cela redonne du sens à leur métier et que c'est pour faire ce type de choses qu'ils ont choisi la psychiatrie. L'aspect réglementaire permettrait aussi d'améliorer l'accessibilité parce qu'il est légitime et logique qu'à terme, on puisse accéder aux directives. Dans mon espace santé ou dans le dossier informatisé du patient, qu'elle même entre l'hôpital et le CMP, a souligné le docteur Olivier Kansei, psychiatre et administrateur au sein de Santé Mentale France. Il a aussi appelé à des clarifications médico-légales sur le caractère opposable ou non des directives. Le praticien a aussi estimé qu'il faudrait proposer la rédaction des directives bien en amont, ce qui suppose une meilleure communication entre équipe ambulatoire et celle assurant les hospitalisations complètes. Il faudrait en faire un outil présent dès le début de la prise en charge pour préparer l'éventualité d'une crise, quand bien même il n'y en a jamais eu. Ne pas attendre qu'il y ait eu plusieurs hospitalisations, cela protégerait l'aspect vraiment traumatique de la première hospitalisation en psychiatrie, si on peut l'éviter. Alors donc le collectif DAP réunit des organisations, associations et établissements engagés dans le déploiement des directives anticipées en psychiatrie, dont l'APHM, c'est Marseille, évidemment, ils sont moteurs, le CHU de Saint-Étienne, le GHU Paris Psychiatrie Neurosciences, qu'on connaît bien, ça. C'est grâce à eux et à leur périphérie qu'on n'a pas pu développer le Cofort Paris. On leur doit ça. Le centre collaborateur de l'Organisation mondiale de la santé, voilà, c'est un, on les connaît bien aussi. La soins pratique, recherche, information, santé mentale, la soins advocacy France, ou encore l'UNAFAM. Voilà. Donc on a ça, on a cela qui quand même progresse. Alors après, c'est toujours la même chose. Dans tous ces projets, ces programmes novateurs, ça marche encore tant qu'on est au niveau de l'expérimentation. Quand on passe à la généralisation, alors là, c'est beaucoup moins bien, c'est beaucoup plus abrasé. Il y a des marges de manœuvre tant qu'on est dans la phase expérimentale. Après, ça se corse.
C'est vrai qu'il y a des réticences. Bon.
Un peu plus vite que ça, un peu mieux que ça. Enfin, faut savoir que quand le droit systématique est rentré sur le terrain, hein, quand il y a eu la décision QPC du 26 novembre 2010 de censure du Conseil constitutionnel qui allait provoquer une judiciarisation obligatoire de l'internement psychiatrique, il y a eu une bronca effarante, effarante, et des plus gauchos des équipes. Non, mais...
On écoute Eddie Mitchell.
Dans un building de 20 étages, l'été comme l'hiver, tu travailles pour une société de 100 000 actionnaires. Ton nom ici n'existe pas, tu n'es qu'un numéro. Pour être sûr de te garder, on te donne ce qu'il faut, rien n'est à toi. Tu ne vaux pas un seul centime, tout appartient à la société anonyme. Rien n'est à toi. Tu ne vaux pas un seul centime, tout appartient à la société anonyme. Afin d'augmenter leur standing, un jour la société a fait construire près du building une belle cité. On est en qualité d'autorité, voici l'appartement. Pour le paiement, tout est réglé, on vous aidera 20 ans, rien n'est à toi. Tu ne vaux pas un seul centime, t'appartiens à la société anonyme. Rien n'est à toi, non. Pas un seul centime, tout appartient à la société anonyme. Pour les week-ends, on est gentil, on te prête une auto. Elle est graissée, elle est lavée, une 23 chevaux. Ta petite amie te voit de loin quand tu viens la chercher. Car sur les portes, on lit très bien le nom de la société, rien n'est à toi. Tu ne vaux pas un seul centime, tout appartient à la société anonyme. Rien n'est à toi. Tu ne vaux pas un seul centime, tout appartient à la société anonyme. Après 30 ans d'un dur labeur courbé par l'ambition, si même tu finis directeur à monsieur au grand nom, que feras-tu quand t'arrivera le jour de l'addition? Lorsque les gens près de Saint-Pierre ensemble te diront, rien n'est à toi. Il ne vaut pas un seul centime, tu t'appartiens à la société anonyme.
Rien n'est à toi, non, non, tu ne vaux pas un seul centime, tu t'appartiens à la société anonyme.
Rien n'est à toi, non, tu ne vaux pas un seul centime, tu t'appartiens à la société anonyme.
On est toujours sur Radio Libertaire 89,4 et c'est toujours l'Entonnoir, émission critique de la psychiatrie avec André Bitton du CRPA.
Et... Avant de résumer une enquête qui a été publiée, qui est très intéressante, dans Mediapart d'hier 21 juillet par Cécile Hautefeuille en addictologie à l'hôpital de Montpellier, un repère d'humanistes qui se battra face au Rassemblement national. Dans ce service de l'hôpital La Colombière, où l'on défend le soin plutôt que la répression, la résistance face à l'extrême droite est patente et le vivre ensemble érigé en bastion à défendre. La Colombière, ça a été regroupé, c'est l'hôpital psychiatrique de Montpellier, c'est regroupé dans le CHU. C'est-à-dire, il y a eu un regroupement d'établissements et l'hôpital psychiatrique a été regroupé dans le CHU. Mais il n'en reste pas moins que l'hôpital psychiatrique lui-même, c'est bien la Colombière. Alors auparavant, je vais faire une petite annonce. Début octobre prochain, nous allons organiser une conférence débat sur les commissions départementales des soins psychiatriques, puisque nous avons la chance d'avoir en contact une psychopsychanalyse, ancienne patiente, qui a été en 2009, qui a occupé le siège des patients dans la commission départementale de l'hospitalisation psychiatrique de l'Oise, où elle couvrait le gigantesque établissement psychiatrique Clermont-de-l'Oise. Ce qui me permettra de revenir sur le rôle singulier et très, très avant-gardiste qu'avait joué Antoine Dubuisson pour le compte de la FNAPSI, un juriste qui avait été embauché dans la FNAPSI avant qu'il y ait du conflit qui se noue entre nous. Mais il avait joué un rôle très important, notamment dans la CDHP du Val-de-Marne. Et donc, prouvant qu'une commission départementale des soins psychiatriques peut très bien fonctionner en mettant à effet les droits des patients, avec son président qui va dans les hôpitaux, se fait ouvrir les registres de la loi, se fait ouvrir les pavillons, fait son rôle d'inspection et ordonne, s'il y a lieu, puisque l'ancienne législation le permettait, d'élever. Bien. Et donc, je reviendrai un peu là-dessus et sur la répression qui s'en était en suivi, puisque la présidente de la FNAPSI avait dessaisi de son mandat Antoine Dubuisson. Il y avait eu une série... Donc, je reviendrai là-dessus sans rentrer plus avant dans les détails, parce que c'est une histoire franchement très compliquée et qui a fait partie de ce qui a amené à l'éclatement du groupe Information Asile, lequel devait avoir lieu. Donc je reviendrai là-dessus lors de cette conf débat. Donc reprenons. Alors, à Montpellier, dans le service d'addictologie, ils ont préservé un lieu d'accueil pour les personnes en situation de toxicomanie, de sorte que, indépendamment des restructurations hospitalières, ces personnes puissent avoir là un lieu d'accueil, un lieu d'hospitalisation d'accueil sans condition, en respectant là où ils en sont par rapport à l'addiction, à la maladie, etc., etc. Donc, alors, on voit là que c'est un peu toujours la même chose. Comment dire ? Maintenir cette tradition hospitalière des anciens asiles. Avec, s'il y a lieu, un peu moins de persécution que ce qu'on a pu connaître. Hein, parce que j'ai quand même fait partie de ceux qui ont connu des hôpitaux psychiatriques village, ouverts, on pouvait rester des années. Simplement, être déshumanisé des années en guise de protection contre la société, contre soi, moi je veux bien, mais ça n'en vaut pas la peine. Moi, personnellement, bon, moi je suis pas là-dedans, voilà, j'ai consommé des stupes comme énormément de gens quand j'étais jeune, mais enfin, moi, c'est pas mon affaire. Mais je veux dire, mon choix personnel a été, et n'en reste pas moins, si c'est pour mener une vie de légumes déshumanisée, c'est dans les luttes et pas ça. C'est tout sauf ça. C'est on est dans les luttes, on essaye d'arracher du terrain, on se coordonne, on se solidarise, mais on n'obéit pas à ça, on n'accepte pas ça. On n'a pas accepté l'inacceptable, tout de même.
Merci André Bitton, c'était la CRPA, et c'est ainsi que se termine l'entonnoir pour cette semaine. Nous vous disons à la semaine prochaine, et maintenant c'est l'heure de Un rayon de soleil, une émission de Radio Libertaire Méditerranée sur Radio Libertaire, évidemment.
rayon de soleil.
Le libertaire debout, le soleil à son zénith. Une émission de Radio Libertaire Méditerranée.
Tous les museaux, tu cassures. Mais les autres, tu vas.